transgressé. Alors, nous sommes là devant un épisode très révélateur de l'astuce et de la débrouillardise dont peuvent faire preuve les femmes de la Bible, alors qu'elles ont tellement peu de pouvoir et de liberté dans la société. Cela nous montre comment ces femmes, qu'on appelle souvent les matriarches, ont pu se rendre si présentes et efficaces malgré leur position subalterne. Continuons de nous intéresser à Rachel qui vient de dérober donc les dieux protecteurs de son père, des statuettes qui pour la religion de son époux Jacob ne sont que des idoles. Mais pour en faire quoi exactement, le texte n'en dit rien. Était-ce juste une vengeance personnelle, une manière d'affaiblir son père comme lui-même avait fait envers elle en la privant de sa dot? Je me demande aussi en quoi étaient fabriquées ces idoles. Car dans les psaumes, on trouve plusieurs fois l'évocation des idoles d'or et d'argent des peuples païens. Dans le psaume 115, verset 4, par exemple, dans le psaume 135, au verset 17, ces idoles d'or et d'argent qui ne peuvent pas aider. Alors, est-ce que Rachel n'a pas trouvé ce moyen de récupérer une partie de son héritage en faisant après, donc simplement fondre ces idoles auxquelles elle ne croyait plus? Elle pouvait ainsi récupérer l'or et l'argent, peut-être, qui sait. En tout cas, le fait est que, grâce à ce vol, dont Laban ne trouvera pas l'explication, Jacob va pouvoir jouer les outragés, parce qu'il a été accusé à tort. Et en fait, cela va lui permettre de négocier un accord avec ce beau-père, qui va accepter de cesser les poursuites et conclure un traité de paix, en promettant de respecter à présent un partage des territoires pour les troupeaux, car maintenant Jacob est devenu riche en troupeaux, il lui faudra beaucoup d'espace de pâturage, et cet accord de paix est une assurance de pouvoir circuler en sécurité à l'avenir, tout ça en fait grâce à l'astuce de Rachel. Le clan de Jacob va continuer donc sa marche, et en chemin rencontrer le chemin d'Ésaü, le frère ennemi. Mais là aussi, il y aura enfin réconciliation et promesse de paix. À partir de là, nous n'entendons plus beaucoup parler de Rachel. On dit bien que les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et nous ne la retrouvons qu'au chapitre 35 de la Genèse, quand, de nouveau enceinte, elle aura un accouchement tellement difficile qu'elle en mourut. La sage-femme lui dira pour la consoler qu'elle pouvait être fière d'avoir encore un fils. Je vous lis cet épisode, donc versets 17 à 20 dans le chapitre 35. Rachel enfanta et ses couches furent pénibles. Or, comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, car tu as un fils de plus. » Mais dans un dernier souffle, au moment de mourir, Rachel appela son fils Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Benjamin, c'est-à-dire fils de la droite. Rachel mourut et fut enterrée sur la route d'Ephrata, c'est-à-dire Bethléem. Jacob érigea une stèle sur sa tombe. C'est la stèle de la tombe de Rachel aujourd'hui encore. Oui, aujourd'hui encore, effectivement, même aujourd'hui, ce site existe toujours. Il est considéré comme le troisième lieu saint du judaïsme, après le mont du Temple à Jérusalem et le tombeau des patriarches à Hébron. Il est devenu un lieu de pèlerinage, surtout pour les femmes qui ont du mal à avoir des enfants. Mais nous pouvons encore trouver dans la Bible d'autres endroits où il sera question de Rachel, par exemple, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 31. Il s'agit d'une prophétie de Jérémie qui annonce le futur retour de l'exil et les promesses de Dieu de retrouver le bonheur. Donc, dans ce chapitre 31 de Jérémie, au verset 15, nous lisons ceci. « Ainsi parle le Seigneur. Dans Rama, on entend une voix plaintive, des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle refuse tout réconfort, car ses enfants ont disparu. Ainsi parle le Seigneur. Assez, plus de voix plaintive, plus de larmes dans les yeux. Ton labeur reçoit sa récompense, oracle du Seigneur. » Donc Rachel est associée à une promesse de retour. Et on voit qu'elle est devenue, dans la mémoire d'Israël, une sorte d'archétype de la mère dont l'attachement à ses enfants est devenu légendaire. Et d'ailleurs, n'oublions pas que l'évangéliste Matthieu va citer ce texte de Jérémie au chapitre 2 de l'évangile, quand il raconte l'épisode du massacre des enfants innocents par le roi Hérode. Je vous lis donc Matthieu, chapitre 2, verset 16-18. « Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une violente colère et il envoya tuer tous les enfants de Bethléem et de tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous. Alors fut accompli ce que le prophète Jérémie avait dit, une voix a retenti dans Rama, une lamentation et une longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et qui refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Donc pour Matthieu, c'est une prophétie du massacre des innocents, et dans la foi chrétienne, nous nous souvenons ainsi de Rachel encore aujourd'hui. Mais plus largement, nous pouvons voir, grâce à la vénération immense accordée à son tombeau, que Rachel est devenue un modèle féminin idéal, par sa réputation de beauté, par son intelligence, par l'amour des enfants, par les souffrances dans les difficultés à avoir des enfants, par sa mort même qui fut comme un sacrifice offert à la maternité, mais aussi par l'amour que lui porta toujours Jacob à travers tous les obstacles et toutes les épreuves. Alors, bien sûr, Jacob eut 12 fils, dont les 12 tribus d'Israël plus tard, dont 6 de sa première femme et 2 par l'intermédiaire de la servante Zilpa, et encore 2 fils par la servante de Rachel, Bilha. Mais il eut surtout 2 fils de Rachel, dont la Bible nous dit qu'ils étaient ses préférés à cause de l'amour qu'il avait eu pour leur mère. Et ce fut le cas surtout pour Joseph, dont le chapitre 37 de la Genèse nous explique la jalousie de ses frères parce qu'il était le préféré de leur père. Mais Jacob s'est attaché aussi à Benjamin, son petit dernier. Nous pouvons lire ça à la fin du chapitre 42. L'amour de Jacob pour Rachel a aussi laissé des traces dans la culture occidentale, à travers la peinture, bien sûr, mais aussi à travers la musique, particulièrement grâce à une femme musicienne, Elisabeth Jacquet de Laguerre, donc, qui a composé dans la période baroque une cantate Jacob et Rachel, dont nous entendrons peut-être quelques notes avant de nous quitter. Et je vous dis dès à présent au revoir, chers auditeurs. À très bientôt.
Aimez les émissions de Radio Présence. Vivante Église.
Attendez la fin.
Parole d'auteur. La conférence de la semaine. Des clés pour vivre.
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence.
4 rue des Feuillants, 31300, Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive.
De ces temps de travaux, elle est la récompense. Mais à peine croit-il mériter son bonheur. Et de ses mots, sa chaste ardeur. Amuse son impatience.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom.
présence, 18h. Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Radio Présence dans le Comminges, 94.1.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série d'entretiens dans ce rendez-vous des clés pour vivre, le combat spirituel clé de la paix intérieure. C'est le titre d'un ouvrage paru aux éditions Effata. Je reçois toute cette semaine son auteur, le père Joël Guibert, qui est prêtre du diocèse de Nantes. Il exerce sa mission entre l'écriture de livres de spiritualité et la prédication de retraite destinée à tout public, un large public, auteur entre autres de Léo Le secret de la sérénité, Renaître d'en haut, et puis un tout dernier qui vient de paraître, Devenir hostie. Alors dans ce monde bruyant, dans ce monde troublé, la quête de la paix intérieure est plus pressante que jamais. Pourtant, cette paix véritable n'est pas un simple état de bien-être passager. Elle est le fruit d'un combat, parfois d'un long combat, un combat intérieur où nous sommes appelés à nous détacher du mal, à reconnaître nos péchés, reconnaître nos faiblesses et nous appuyer pleinement sur Dieu. Bonjour Père Joël Guibert.
Bonjour chers auditeurs.
Merci d'avoir dit oui. Alors vous allez dès maintenant partir un peu à la rencontre de nos auditeurs avec ce livre et puis cette thématique que je vous ai proposée. Ça tombait tellement bien, le combat spirituel avec, je dis bien, ce sous-titre clé de la paix intérieure. Peut-être en introduction, dans ces première minute, ce premier entretien, Père Guibert, est-ce que vous pouvez nous résumer, pour ceux et celles qui vous découvrent, et puis vont découvrir peut-être ce qu'est véritablement le combat intérieur, le combat spirituel, c'est quoi, en quelques mots ? Et merci.
On est vraiment fait pour le bonheur et la paix intérieure, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et que notre Dieu s'appelle le Prince de la Paix. Mais voilà... L'histoire humaine n'est pas l'histoire de Dieu, au sens où l'homme a péché et sa nature, c'est comme sortie de son axe. Nous n'avons pas du tout la vision profondément noire du protestantisme sur l'homme, mais il est abîmé et blessé. Et le combat spirituel, c'est une entreprise de rectification. C'est l'air de... comme on dit au football, la balle au centre, retrouver notre centre, retrouver notre orientation profonde qui est d'aimer et de se laisser aimer.
Alors plusieurs chapitres dans ce livre, donc une douzaine de chapitres, il fallait donner quelques axes, Père Joël Guibert. Donc je me permettrai de revenir sur le chapitre numéro 2 que vous avez donc intitulé « Les secours de la grâce » avec des sous-titres « Ma grâce te suffit ». Alors qu'est-ce que la grâce de Dieu, Père Guibert ?
La grâce de Dieu, pour faire très simple, c'est Dieu. C'est Dieu adapté à l'homme, c'est-à-dire c'est sa propre vie intérieure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire son propre amour. Et comme il est l'amour infini, il est donc le bonheur infini. Sa grâce, vivre en grâce, c'est vivre de lui, en harmonie avec lui, quels que soient les événements.
Alors, comment s'ouvrir à cette grâce dans cette vie ordinaire du quotidien, Père Joël ?
Écoutez, moi j'ai vécu une forme de conversion, je dis bien, chers auditeurs, 15 ans après avoir été ordonné. Et j'étais assez généreux pour Dieu, puisque je faisais déjà 2 heures d'oraison par jour. Sauf que je fonctionnais à l'envers, et je ne m'en rendais pas compte. C'est-à-dire que j'étais généreux pour Dieu, enfin j'essayais de l'être, sauf que tout ceci peut être à l'envers. Pourquoi ? Parce que Jésus le dit, ce n'est pas vous qui m'avez aimé, c'est moi qui vous ai aimé. Qu'est-ce que c'est remettre les choses à l'endroit ? C'est permettre à Dieu d'être Dieu dans nos vies. Et donc apprendre à le laisser faire. Et voyez-vous, ce qui est très intéressant, c'est que cette conversion, elle a été permise par une vieille femme aveugle que vous avez peut-être rencontrée, parce que je crois que je suis... Oui, c'est ça. Quand je suis venu à Lourdes il y a de nombreuses années.
Tout à fait, oui.
Elle était encore vivante, elle était aveugle, et elle disait ceci, parce qu'elle avait une grâce vraiment... Bon, elle a tellement été purifiée que Dieu pouvait être Dieu chez elle.
Dieu passé.
Et quand elle... Comment ?
Dieu passé.
Oui, 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 vraiment. Et quand elle était dans les retraites, elle disait souvent ceci, avec son langage très simple. « Je sens l'âme de vos retraitants, ils veulent vraiment Dieu, mais il y a un problème, ils lui commandent tout le temps. » Le langage est très simplement dit, simplement c'est un langage extrêmement simple qui dit la même chose que saint Ignace de Loyola dans les très sérieux exercices qui s'appellent l'indifférence spirituelle. Si aujourd'hui il y a une grande fatigue de l'Église, c'est là qu'il faut la chercher. C'est là qu'il faut la chercher. C'est que on est généreux pour Dieu, mais souvent on ne permet pas assez à Dieu d'être généreux pour nous. Et pour cela, vous me demandiez une première clé pour vivre en grâce. Eh bien, le oui. Ben, on est à Lourdes. Le oui de la Sainte Vierge. Voilà. Le oui à Dieu à travers les événements, puisque c'est là qu'il se manifeste la volonté. Et c'est ça, cette conversion que j'ai commencé à vivre en tant que prêtre, et à partir de là, tout a un peu explosé pour moi, dans le bon sens de l'explosion. Hein. Donc il y a eu cet appel, bien évidemment, un prêtre ne fait rien sans l'autorité, donc j'ai soumis ça à mon évêque, et puis maintenant je fais quelque chose qui était absolument inimaginable à l'époque, parce que beaucoup, tous, nous nous sommes limités. Comme on a, qu'on le veuille ou non, un Dieu limité dans la tête et dans l'âme, eh bien, on est limité en fonction de ce limite de Dieu qu'on impose. Et là, je fais des choses, je vois bien, c'est lui qui les fait. Vous voyez, par exemple, j'arrive à Lourdes, j'étais à Dijon le week-end dernier, je suis à Lorient le week-end d'après, je suis à Paris là, pour des émissions à la télévision, tout ça. C'était impensable pour moi de faire ces choses. En fait, voilà, je résume tout. Il s'agit de laisser à Dieu le volant. Et c'est très dur, dans un premier temps. Pourquoi ? Parce que nous sommes tous et toutes dans la maîtrise.
Dans ce fameux contrôle. Alors, cette grâce de Dieu, est-elle un don ou est-il cet appel un peu à un changement de vie, au fond, quand on vous écoute sur cette question aussi de la grâce? Il s'agit bien d'un changement, d'une réorientation et d'une conversion profonde du cœur. On roule, mais on lâche le volant, quelque part.
Je résumerai bien en un mot, une expression. Apprendre à se recevoir en tout de Dieu, j'ajoute aussitôt. Se laisser faire ne veut pas dire se laisser aller, ce n'est donc pas du quiétisme. Et se laisser faire ne veut pas dire rien faire, c'est-à-dire de la fainéantise ou du fatalisme. Il s'agit de se recevoir. Et saint Thomas d'Aquin, pour cela, est très équilibré. Il dit « Dieu agit dans l'homme agissant ». C'est pas Dieu contre l'homme, mais c'est l'homme qui permet à Dieu d'être Dieu tout en étant pleinement homme. Donc il est agissant.
Il est agissant avec cette part un peu d'activité de l'humain qui n'est plus appelé à contrôler, mais à ouvrir cette porte du cœur, à devenir quelque peu aussi actif et à coopérer avec Dieu. C'est ce qu'on peut comprendre.
Ouais,
Père Guibert.
Vous utilisez le bon mot, ouais. Il s'agit de coopérer. Mais comme dirait, bon, bien sûr, elle n'est pas sainte, mais un peu de mon pays, Mère Yvonne Aimée de Malétroit, dont on parle de plus en plus. Là, j'arrive de prêcher au Chili. J'étais tout surpris de voir comment elle est extrêmement populaire. Et elle dit à ses sœurs, à lui la direction, à nous la coopération. Mais nous ne sommes pas Dieu. Il faut laisser Dieu qui est l'origine de tout. Qui ne veut pas dire que, je le redis, on va rien faire, mais on va apprendre à recevoir son faire. Et comme vous l'avez très bien dit, on va coopérer, parce qu'il le veut. On n'est pas un pur réceptacle passif. On est un vrai coopérateur de Dieu.
Donc il nous attend chacun. J'imagine que les auditeurs qui vous écoutent sont appelés eux aussi à être dans cette coopération avec le bon Dieu.
Bien évidemment, c'est pas réservé aux prêtres qui soient soi-disant évangélisateurs et puis les baptisés, ça serait le low cost de l'Église, pas du tout. Dès que vous êtes baptisé, vous êtes habité par Dieu. Donc, baptisés, religieuses, prêtres, évêques, tous nous avons besoin d'entrer dans ce mouvement de conversion qui n'est pas d'abord un mouvement de conversion du mal, du péché. Mais, si vous voulez, jusqu'à maintenant on marchait sur la tête, c'est plus confortable de marcher sur les pieds. C'est-à-dire d'avoir la tête en Dieu.
Et ça demande cette coopération et ça demande peut-être aussi de sortir un peu dans le quotidien de nos vies, du bruit, de l'agitation. Vous le rappelez aussi dans l'un des chapitres de ce combat spirituel, clé de la paix intérieure. Parce qu'au fond, Père Guibert, et je vous propose de vous retrouver dès demain à la même heure, ce besoin de l'homme, c'est un besoin infini d'être aimé. C'est le besoin aussi du bonheur des ici-bas.
Ah oui, vraiment.
Donc il faut continuer à le chercher, ce bonheur, dès maintenant.
Bien évidemment, et surtout il est dans les riens du quotidien.
Alors, ces riens du quotidien, eh bien, ce sont les riens aussi de l'aujourd'hui, peut-être, du maintenant. Chers auditeurs, je vous propose de vous retrouver avec le père Joël Guibert, et je vous conseille aussi la lecture de cet ouvrage précieux, avec toutes les bonnes clés pour être armé pour ce combat en vue du royaume, parce qu'il est question du royaume et en vue du salut des âmes. À demain, même lieu, même heure. Merci.
Clés pour vivre, l'intégrale.
C'est un deuxième épisode de cette série des clés pour vivre, au micro pour intervenant, pour témoin, et c'est un auteur aussi que je reçois, un prédicateur aussi de retraite. Bonjour Père Joël Guibert.
Bonjour à vous, bonjour chers auditeurs.
Ravi de vous recevoir. Alors il est question du combat spirituel, clé de la paix intérieure, titre de cet ouvrage. Chers auditeurs, je vous le conseille, aussi un outil précieux pour avoir les justes clés de discernement, de prudence, pour faire aussi les bons choix, éviter peut-être, on parlait de contrôle hier, lors du premier entretien, éviter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, mais s'abandonner et se laisser faire au fond, hein, vous nous l'avez rappelé. Alors, puisqu'on veut des clés dans cette émission pour mieux vivre au quotidien dans cette vie ordinaire, mais qui peut devenir extraordinaire, permettez-moi de vous interroger pour que vous donniez quelques clés à ceux et celles qui vous écoutent. Il y a des tactiques, les tactiques du diable. Voilà. Alors, comment traverser un peu toutes les tentations? Comment traverser pour rester finalement fidèle au bon Dieu et rester debout tout en sentant un peu ses faiblesses, peut-être sa part aussi de péché, de fragilité. Alors, éclairez-nous. Père Guibert, et merci.
Alors, quand on parle du diable, c'est toujours délicat parce que les gens sont actuellement fascinés. Ils ne croient plus en Dieu, mais ils sont fascinés par le diable. Que ce soit clair, chers auditeurs, le diable, il est appelé dans l'Écriture le prince de ce monde, mais seul Jésus est le roi du monde. On n'est pas dans du manichéisme comme si le diable était l'équivalent de Dieu. Bien. Ceci dit donc, cet être qui est un ange s'est rebellé avec toute sa bande contre Dieu, il ne peut plus attaquer Dieu, donc il atteint ce qui est le plus cher à Dieu, c'est-à-dire ses créatures, ceux qui sont créés à son image, les hommes. Et il les tente. Il ne faut pas imaginer la plupart du temps des grandes tentations terribles comme chez les grands mystiques. Il va, par exemple, certains, beaucoup, surtout aujourd'hui, dans ce monde, vous l'avez dit, extrêmement troublé, il va, je crois que le diable est le spécialiste de l'exagération. Donc, une âme qui va être un peu troublée, il va élargir la faille. Une âme qui va, par exemple, avoir une petite tendance au découragement, eh bien, il va lui faire, il va lui suggérer des choses pour qu'elle baisse les bras. Une autre qui va être tentée par les plaisirs de ce monde, il va lui faire miroiter encore plus. Je crois que c'est Napoléon qui disait ça. la tactique pour attaquer, c'est voir le point faible. Et attention, il ne peut pas avoir accès à notre âme, mais par contre, les pères de l'Église, saint Thomas d'Aquin, saint Ignace de Loyola, saint Jean de la Croix, enfin les grands maîtres, disent qu'il nous connaît par le sensible. Il ne peut pas avoir accès à l'âme. L'âme est en quelque sorte le coffre-fort réservé à Dieu. Et donc, à travers nos réactions sensibles, il voit, il est très intelligent. Il va connaître nos points sensibles. Donc, à nous de les connaître.
Donc, d'où l'importance d'une connaissance de soi.
Connais-toi toi-même, oui. Dirait quelqu'un. Il est important de connaître.
Donc, c'est une manière d'être armé aussi.
Et oui.
Hein.
Oui.
Donc, ne pas avoir peur de ses failles.
Non, non.
C'est-à-dire qu'il faut les approcher, il faut les regarder ou il faut les déposer au pied de la croix
dans le failles sont... C'est... Chacun de nous est un peu un château fort. Et comme le pont-levis n'est pas tombé, parce que ça c'est réservé aux âmes qui sont complètement abandonnées, eh bien on a des failles dans notre muraille. Et heureuses failles. Parce que ce sont ces failles. Oui, il va entrer par là-dedans le diable, parce qu'il sait que c'est des points de faiblesse. Mais dites-vous bien une chose, c'est que le bon Dieu aussi. Chacun a des failles, pas forcément des failles au sens psychologique du terme, mais des petits points. Et en quoi Dieu s'en sert? Eh bien, c'est pour nous maintenir dans l'humilité. Parce que pour Dieu, le fond du fond de la vie spirituelle, c'est pas d'être clean au sens où... Parce qu'on peut se complaire dans le fait d'être complètement sous bien, sous tout rapport, comme on dit. Et c'est l'humilité, et chez tous les êtres qui veulent le suivre, eh bien, il leur fait découvrir leurs failles qui les maintiennent dans la petitesse. Elles sont obligées d'appeler et de se tourner vers Dieu, et curieusement, alors, la petitesse et la faille devient une opportunité extraordinaire, parce que ça nous oblige à pas faire de retour sur nous-mêmes. Dès qu'on fait des retours sur nous-mêmes, on ressemble à une personne qui est sur le billard en train de se débattre pour dire au chirurgien comment opérer. Alors heureusement, il y a un truc qui s'appelle une piqûre et qui s'appelle une anesthésie. Puis après, il peut enfin opérer. Mais il faut regarder le divin chirurgien. Évitez, chers auditeurs, tous ces retours auto-condamnateurs sur vous-même. Je ne dis pas de ne pas faire de bilan, d'examen de conscience, ok. Mais il y a une manière de faire de l'examen de conscience qui fait qu'on passe son temps à se regarder. Et en fait, on ne regarde pas Dieu.
Et on perd du temps.
Oui, puis Dieu ne peut pas nous opérer. Il faut beaucoup le regarder. Vous savez, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Les yeux fixés sur le chef de notre foi.
Donc beaucoup le contempler.
Même quand on a raté, il faut le regarder. Bien évidemment, je suis catholique. Donc, il faut faire un effort pour réparer, bien évidemment. On a blessé l'amour. Mais après que c'est fait, il ne faut pas se complaire là-dedans. Il faut aller jusqu'à... Écoutez, c'est fort, hein, c'est Thérèse de Lisieux. Petite parole que vous ne trouverez pas, chers auditeurs, dans les écrits, mais qui est présent dans des paroles rapportées par Marie de la Trinité, sa novice. Elle dit ceci. « Nous autres, me disait Thérèse... Nous ne voulons pas être des saints qui passons leur temps à pleurer sur le péché. Nous voulons apprendre à glorifier Dieu par nos péchés. » Fort, hein ? Ça veut dire, bien évidemment, il ne s'agit pas de multiplier les péchés, je pense que les auditeurs l'auront compris, mais que le péché, s'il est vécu aussitôt dans l'abandon, l'humilité à la miséricorde de Dieu, ça va constituer les marches de l'échelle sainte. Mais... qu'est-ce qu'il en faut des liftings de la volonté propre avant d'entrer là-dedans?
Donc on entend bien aussi que ça peut être aussi, donc pas de découragement, chers auditeurs, c'est aussi le temps aussi de tout un pèlerinage sur cette terre. Vous rappelez dans cet ouvrage Le combat spirituel, clé de la paix intérieure, c'est une petite anecdote, on raconte que le diable apparut un jour au grand saint Antoine, vous rappelez, un quart d'heure avant sa mort, le démon lui dit alors, Antoine, tu as gagné, maintenant tu n'as plus besoin de faire des efforts, tu as gagné la partie. Antoine lui répond, menteur, je sais qu'il reste encore un quart d'heure avant que je meure.
Jusqu'à la fin. Et si vous écoutez une grande sainte de la miséricorde qui est Sainte Faustine, eh bien, elle a un charisme particulier, c'est d'être envoyée en bilocation pour intercéder pour des âmes qui sont sur le point de mourir. Et étant donné qu'elle vit en Dieu, elle voit les choses de Dieu que la famille ne voit pas autour de l'agonisant. Et elle voit les anges, les bons anges, et elle voit les diables qui essaient de désespérer l'âme jusqu'à la dernière minute. Et c'est pour ça